du courage. C'est encore possible à son âge. Si tu as la force et la foi, un remède à portée des doigts.
Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Mel Emmanuel.
18h à Zopé dans la région de la Mai en temps universel, bonsoir à tous. Le dernier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu ce jour au palais de la présidence. La question de la bonne conservation des éléphants, le conseil de discipline de la fonction publique et les conflits entre agriculteurs et éleveurs étaient au centre de cette session de travail. Les parents de la ville de Sakassou invités à scolariser leurs enfants plutôt que de les laisser dans les champs. Une invitation portée par le directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel. Et hors de nos frontières, le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre ce mercredi dans la foulée du limogeage du précédent. Le nouveau chef de gouvernement, Rui Duarte Barros, aura pour cheval de bataille la lutte contre la corruption. Heureux de vous retrouver pour ce journal. C'est avec le dernier conseil des ministres de l'année 2023 que nous démarrons cette édition de l'information. Pendant cette session de travail tenue ce mercredi 20 décembre au palais de la présidence en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, la bonne conservation des éléphants, la réorganisation du conseil de discipline de la fonction publique et le règlement amiable des conflits agriculteurs et éleveurs ont fait partie des mesures analysées. Junior Cardin.
Les éléphants en Côte d'Ivoire se trouvent dans une situation alarmante. De plus de 3000 individus en 1970, ils sont aujourd'hui environ 500. D'où ce projet de loi examiné, selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Ce projet de loi prévoit à cet effet des sanctuaires d'éléphants, constitués notamment des parcs nationaux et de réserves naturelles ou des forêts classées. Ce projet de loi prévoit également la mise en place de compensations financières des dommages causés par les éléphants.
Un autre projet, cette fois de décret, a été adopté pour réorganiser le conseil de discipline de la fonction publique.
Ce décret précise la procédure avant, pendant et après la saisine du conseil de discipline, les différents acteurs qui interviennent, les sanctions applicables ainsi que leurs effets sur la carrière du fonctionnaire ou du fonctionnaire stagiaire.
Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le conseil a adopté un décret fixant les modalités de règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Ce décret vise à faciliter le règlement amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs et à créer les conditions favorables à une mise en œuvre efficiente de la loi d'orientation agricole. Il prend en compte les nouveaux barèmes d'indemnisation pour destruction de cultures et autres investissements en milieu rural et renouvelle les organismes dédiés en vue de remédier durablement aux conflits entre agriculteurs et éleveurs et de préserver la cohésion sociale.
Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a averti que contrairement à la rumeur, il n'y aura pas de congé scolaire pour la CAN. Toutefois, les élèves n'iront pas au cours les jours de match des éléphants.
Parlons toujours de politique avec la tenue ce vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro du congrès électif du PDCI-RDA. À ce sujet, tout baigne dans l'huile. Plus de discorde pour un quelconque prétexte, pour suspendre ce rendez-vous électoral dans la capitale politique, commente le secrétaire exécutif chargé des questions juridiques du PDCI, Maître Sui Bigoré-Émile.
Le bureau politique a fixé au vendredi 22 décembre 2023 la date pour la tenue du 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui sera consacré à l'élection du nouveau président du parti. C'est Ayam Sokro à la Fondation Félix Soussouboyen pour la recherche de la paix.
Et donc, c'est l'adieu à la tempête qui a secoué votre parti?
Oui, nous pouvons le dire. C'est des événements qui arrivent, c'est la marche d'un parti politique. Il peut arriver que des incompréhensions puissent créer ce genre de situation. Mais nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris. Et je pense que désormais, nous regardons dans la même direction pour la bonne marche du PDC-IRDA. La cohésion est parfaite. Tous les candidats déclarés ont pris la parole au cours de la réunion du bureau politique et ont appelé à l'apaisement et se sont engagés pour vraiment la paix dans la maison PDC-IRDA.
Y compris Maurice Kakou-Gikayue.
La tempête dont vous avez parlé tout à l'heure, ceux qui étaient à l'origine de cette tempête ont entre autres évoqué le rejet de sa candidature. Mais le plus important, ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que les cinq candidats donc, ont appelé à la cohésion, ont appelé à l'apaisement. Et M. Maurice Kakou-Gikayue a également dit qu'il appelle à l'apaisement pour un PDC-IRDA uni et fort.
Maître Suibi Emile du PDCI-RDA qu'on écoutait à l'instant a été joint par Soro Adams. Et en attendant la tenue du congrès électif du PDCI-RDA, c'est dans le Bounkani que nous posons nos valises. Lors de la quatrième et dernière réunion du conseil régional tenue le mardi 10 décembre dernier, les quatre vice-présidents du dit conseil ont été dotés de véhicules de type 4x4. Ayant longtemps fonctionné exclusivement avec les ressources affectées de l'État, ils auront pour mission de parcourir le paysage régional pour sensibiliser les populations et convaincre les contribuables pour le paiement de leurs taxes pour la mobilisation de ressources propres additionnelles et contribuer à l'effort de développement local. On retrouve dans le Bounkani Jérôme Kouassi, notre correspondant.
Le fonctionnement du conseil régional du Bounkani ne doit plus dépendre uniquement des ressources affectées de l'État, rassure le président des régions, Yann Philippe.
Nous avons vécu exclusivement, travaillé exclusivement avec les ressources affectées de l'État. Il est clair que ça ne peut pas continuer ainsi. Nous ne sommes pas en dehors de la République de Côte d'Ivoire. Il nous faut nous aligner sur les tests qui régentent les collectivités ivoiriennes. Ces tests-là nous imposent de ressortir des ressources propres.
Pour une région dite déshéritée et pauvre, comment arriver à prélever des taxes dans le pays rural. Développer d'abord une économie locale, l'approche du conseil régional du Bounkani par la voix de son président.
Nous savons que notre région est l'une des régions les plus pauvres du pays avec un taux d'environ 60% de pauvreté. Il faut créer l'économie locale. Lorsque cette économie locale sera entamée, par derrière nous travaillerons à amener ces populations à contribuer. Donc ça veut dire que ça nous laisse un temps assez important pour faire comprendre le processus aux parents, les amener, les engager dans ce processus-là et les amener effectivement à contribuer.
Pour atteindre ces objectifs, le conseil a doté ses quatre vice-présidents de véhicules flambant neufs de type 4x4 et mis en mission, explique le président du conseil régional de Bouna, Yann Philippe.
Nous les attendons dans la proximité avec les populations, nous les attendons dans la sensibilisation et nous serons très regardants des objectifs, de l'atteinte de ces objectifs-là. Et voilà pourquoi nous mettons à leur disposition ces moyens de travail. Après la mission qu'ils ont, les chefs qu'ils sont. Tout ce qui manque, c'est les résultats. On attend d'eux maintenant des résultats et ces engins-là devraient y contribuer fortement.
Pour rappel, le taux de pauvreté de la région du Bounkani est de 60% selon les données statistiques nationales. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
Ouvrons une page santé et droits de l'homme dans ce journal. Le mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, a rendu public son rapport de recherche conjoint sur l'impact de la privatisation et la marchandisation de la santé, sur le droit à la santé et l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire. C'était hier mardi 19 décembre à son siège dans la commune de Cocody. Objectif, présenter le nombre impressionnant des cliniques privées non autorisées et montrer comment la privatisation des soins de santé est un facteur de discrimination en Côte d'Ivoire. Jean-Mélène Bitti.
À cette cérémonie de présentation des rapports de recherche, Daou Amadou, coordinateur de ce projet, est revenu sur quelques points essentiels de ce rapport.
93% fréquentent l'établissement sanitaire public parce qu'il offre un service à moindre coût. On note l'éloignement des centres de santé publics, l'insuffisance du matériel au sein des hôpitaux publics. 69% des personnes interrogées affirment que le matériel médical est limité et ne couvre pas l'ensemble des besoins des populations.
Aya Douabou, chargée de programme pour l'Afrique à l'ONG Initiative Mondiale pour les droits économiques, sociaux et culturels, demande à ce que l'État puisse se réapproprier le secteur de la santé.
Les services sociaux tels que l'éducation et la santé doivent être fournis par l'État. Parce que quand ils sont fournis par l'État, tout le monde y a accès, peu importe son statut socio-économique. Malheureusement, depuis les années 80, qui ont vu un désengagement de l'État et une croissance de la privatisation, il y a beaucoup de personnes qui étaient exclues. Notre plaidoyer, c'est de faire en sorte que les services sociaux de base qui soient accessibles à tous.
Pour la bonne application de ces recommandations, Bamba Drissa, président du MNIDH, en appelle à la vigilance des populations.
Tout ce que nous avons fait comme recommandation vient de la population elle-même. Elle doit donc veiller au respect des recommandations, des mesures, des suggestions. Elles ont pris une part active dans cette recherche-là sur le terrain.
Ce rapport sur l'impact de la privatisation et la marchandisation de la santé sur le droit à la santé en Côte d'Ivoire indique que 81% des centres de santé privés en Côte d'Ivoire fonctionnent dans l'illégalité.
Toujours santé, lors de la dernière revue du projet de renforcement du système national d'information en nutrition, SNIN, tenu en République du Laos en octobre dernier, il a été relevé comme défi majeur la coordination de ce projet. Et c'est dans cette optique que le Programme national de nutrition, l'Union européenne, l'OMS et l'UNICEF ont organisé une réunion du comité de pilotage de ce projet le mercredi 13 décembre 2023 à Cocody. Sur les détails, écoutons Dr René Oka, il est le directeur coordonnateur du Programme national de nutrition.
Le comité de pilotage fait le bilan des années projets qu'on conduit et nous travaillons avec la direction de l'information sanitaire sur les aspects techniques de la gestion des données de nutrition. Nous avons un tableau qui retrace l'ensemble des données de nutrition, qu'on peut apprécier la complétude et la promptitude des données, faire des analyses, voir donc l'incidence et la prévalence de certains indicateurs de nutrition comme la malnutrition aiguë, et puis ça nous permet de savoir si on a trop d'enfants malnutris, si on a moins, et ça nous permet de prendre action. Nous avons des données de routine qui nous permettent d'apprécier l'incidence de la malnutrition sur l'ensemble du territoire. Nous avons également l'enquête démographique de santé qui nous donne également la situation. La question de l'anémie également est au cœur de nos échanges pour trouver donc des solutions durables. Ces incidences de la malnutrition, d'où donc notre réunion pour permettre de pouvoir avoir des données de qualité qui nous permettent de prendre la décision. On connaît la situation de la malnutrition en Côte d'Ivoire. En termes de pourcentage sur la chronique, on est autour de 21-22%. Le taux d'allaitement a progressé aujourd'hui de 24 à 34% exclusif. L'allaitement jusqu'à 2 ans, on est autour de 80-85%. L'objectif, c'est d'atteindre 72% d'ici 2025. Nous avons également la question de la mise au sein précoce. Il doit s'aligner sur la consultation prénatale, mais autour de 40-45%. Les perspectives ici, c'est d'améliorer la compétence des producteurs de données et puis également l'audit des données pour des régions et des districts pour maintenir la qualité et également assurer l'analyse. C'est la prochaine étape de la perspective.
Le docteur René Oka dans des propos recueillis par Paul-Bénédicte Bolou. Et nous prenons la direction de Sakassou pour nous intéresser à la lutte contre le travail des enfants. Le directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel, a invité les parents à scolariser davantage leurs enfants plutôt que de les laisser dans les plantations. C'était lors d'un arbre de Noël organisé au bénéfice des enfants de la ville. De Sakassou, la correspondance de Joseph Assalé.
L'éducation doit être le socle de tout développement local, selon le directeur de cabinet du vice-président de la République. Raison pourquoi Kofi Aoutou Emmanuel plaide pour une scolarisation à outrance des enfants du département de Sakassou.
Il n'y a pas de capital humain qui vaille sans une éducation, sans des populations bien formées, éduquées, et pour avoir véritablement l'égalité des chances. Aucun enfant ne doit rester à la maison auprès de ses parents ou dans des champs sans avoir l'opportunité d'aller à l'école.
In fine, Kofi Aoutou Emmanuel engage les cadres de la région à s'approprier véritablement la politique de scolarisation prônée par le gouvernement.
Conjuguons davantage nos forces dans l'union pour que nous puissions réussir le pari de l'école. Parce que investir dans l'école, c'est investir dans l'avenir. On parle de capital humain et le président Oufouet Boigny nous l'a enseigné que l'école est la priorité des priorités et pour avoir véritablement l'égalité des chances.
Cet appel rencontre l'assentiment des populations.
Adjumani a dit via Béatrice, la place des enfants c'est à l'école, non à la maison. Donc j'exhorte les parents qui ont encore les enfants à la maison de les envoyer à l'école pour leur bien-être. Ce seront peut-être des ministres, des préfets et autres.
A noter qu'à l'occasion de cet arbre de Noël organisé par le directeur de cabinet du vice-président de la République, plus de 400 meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de Sakassou ont été primés. Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Protection sociale dans le secteur agricole et informel. Un atelier technique de consolidation du rapport final d'une étude relative au programme d'investissement pour l'extension de la protection sociale dans les secteurs agricole et informel en Côte d'Ivoire se tient du 19 au 20 décembre 2023 à Assini. C'est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. L'objectif du projet est de passer dans de couverture des programmes de protection sociale de 27% en 2020 à 40% en 2025 pour finalement atteindre 54% en 2030. Jean-Claude Mabéa était à l'ouverture des travaux, suivant son compte-rendu.
Ataye Maïga, représentant résident de la FAO, a d'entrée présenté le programme qui fait l'objet de cet atelier de consolidation.
L'objet de la rencontre ici, c'est d'échanger autour d'un programme d'investissement pour la protection sociale en Côte d'Ivoire qui va permettre justement de mettre toutes les ressources qui sont nécessaires pour que la protection sociale puisse enfin atteindre tous les acteurs qui opèrent dans le monde rural et aussi dans l'informel. Et cela permettra de rehausser la couverture de la protection sociale en Côte d'Ivoire.
De nombreux défis restent à relever en matière de protection sociale dans le secteur agricole et informel, a reconnu Aubin Tapé Nyoleba, directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
Nous avons pour objectif d'atteindre 50% de la population rurale à l'horizon fin 2024. Nous sommes déjà pour la couverture maladie universelle à 9 millions de personnes enrôlées. De façon globale, c'est à peu près le tiers, donc 30% de la population qui est déjà enrôlée. Pour le régime social des travailleurs indépendants, nous avons encore des efforts. Nous sommes seulement à 6% de la population cible. Mais avec les efforts de toutes les parties prenantes, les fêtières de ces organisations que nous avons rassemblées aujourd'hui, nous pourrons rapidement les sensibiliser et rapidement avoir des adhérents qui comprendront que ces mécanismes-là sont pour leur bien-être et pour le bien-être social de leur communauté.
Les participants disent attendre beaucoup des conclusions de cet atelier.
Jacob Niamien, le directeur pays de CRS. Le cadre qui a été établi par le ministère qui fait l'objet de cette rencontre puisse être un cadre consolidé.
Après validation du rapport final, suivra la phase de généralisation du programme à l'échelle nationale.
Hors de nos frontières, le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a assigné la lutte anticorruption à son nouveau premier ministre, Ruy Duarte Barros, nommé ce mercredi dans la foulée du limogeage du précédent dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements que le chef d'État bissau-guinéen a qualifié de tentative de coup d'État. Lors de l'investiture, le nouveau chef de gouvernement... Lors de l'investiture du nouveau chef de gouvernement, le président Oumaro Sissoko Embalo a assigné la lutte sans trêve contre la corruption comme toile de fond des tâches de l'équipe gouvernementale. Personne ne doit être au-dessus de la loi, a-t-il dit en présence de Ruy Duarte Barros. Et de l'Afrique de l'Ouest, nous partons en Amérique à propos de la présidentielle 2024 aux États-Unis. La Cour suprême du Colorado vient de juger Donald Trump inéligible dans cet État. Du coup, l'ancien président américain participera au scrutin américain de l'année prochaine, très handicapé à moins que la Cour suprême fédérale casse cette décision. C'est ce que nous explique l'Ivoiro-américain spécialiste des États-Unis, Ousmane Bannett, joint par Jean-Claude Comé.
Pour que vous puissiez vous présenter président aux États-Unis, il faut que vous vous présentez dans chaque État. Et donc, c'est dans ce ordre d'idée-là que l'État du Colorado a décidé que, compte tenu de l'attaque du Capitole, il trouve que Trump était responsable au vu des faits. Et donc, pour cela, il s'est disqualifié pour être candidat dans l'État du Colorado.
Quelles conséquences possibles pour la présidentielle au niveau fédéral?
Écoutez, il faut comprendre que Trump vient de faire appel au niveau de la Cour suprême fédérale. Donc, eux peuvent annuler la décision du Colorado ou alors ils peuvent garder la décision de Colorado. Alors, s'ils annulent la décision de Colorado, à ce moment-là, il n'y a pas de danger pour Trump. Bon, il peut y avoir d'autres dangers. C'est fort probable que d'autres États emboîtent ce que le Colorado vient de faire. Maintenant, s'ils décident de ne pas annuler, alors là, c'est pratiquement fini pour Trump parce que l'élection aux États-Unis, ce sont les grands électeurs. Donc, si vous avez un État sur 50 où vous perdez déjà les grands électeurs, je crois que ça doit être aux environs de 14. Donc s'il perd déjà 14, il peut se présenter dans le 49 autres États, il ne peut pas gagner. Ça va être compliqué.
À l'instant, Ousmane Bannett, spécialiste des États-Unis, en ligne avec Jean-Claude Comé. Et la dernière information de ce journal, c'est du football. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, CAF, et le comité d'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, ont tenu ce mercredi à la mi-journée une conférence de presse à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'accent a été mis sur l'état d'avancement des préparatifs de la CAN 2023 devant se tenir en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo Omba, a entre autres confié à la presse l'héritage que laissera la compétition à la Côte d'Ivoire. Il a également évoqué la question du refus de certaines équipes de loger dans les cités CAN construites à cet effet. Nous l'écoutons.
Le 11 février, qu'est-ce qui va se passer? Vous pliez les bagages et puis vous partez? Non. 20% de l'argent que le sponsor a payé à la CAF pour associer leur image, 20% de ce montant va être investi, va rester ici en Côte d'Ivoire pour le développement du football dans ces pays. Bien sûr, ça sera encadré par un règlement, naturellement. Donc, la CAF va laisser un legacy, un héritage de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les 20%, ce n'est pas des ventes de billets, c'est les bénéfices. Si, à la fin de la compétition, après avoir payé les prize money aux équipes, payé les autres dépenses qu'incombe à la CAF, les restes, si c'est 10 dollars, les 10 dollars là, 20%, sera à la Fédération Ivoirienne de Football pour soutenir le développement du football ici. Il faut que la jeunesse ivoirienne puisse bénéficier des résultats de la compétition qui a eu lieu chez eux. Donc c'est la Fédération ivoirienne, naturellement, ça va être encadré dans un règlement qu'on va discuter, signé entre la FIF et la CAF. Je suis allé 3 fois à Boaké, cette magnifique ville. C'est mon stade préféré, le stade de Boaké. S'ils veulent, ils peuvent habiter sur la Lune et puis viennent jouer, ça pose aucun problème. Ils peuvent aller habiter là où ils veulent, mais à l'heure du match, il faut être là. On va faire une porte ouverte de ces cités quand vous allez voir, c'est des magnifiques villas. Donc ils ont préféré ne pas habiter à Cité Cannes. Ça, c'est leur problème. Qu'il a habité là où il veut, mais à l'heure du match, il faut être là.
Les propos du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, ont été recueillis par César Yao. Et voilà qui nous fait passer au rappel des titres de ce journal. Le dernier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu ce jour au palais de la présidence. La question de la bonne conservation des éléphants, le conseil de discipline de la fonction publique et les conflits entre agriculteurs et éleveurs étaient au centre de cette session de travail. Et puis hors de nos frontières, le président de Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre ce mercredi. Dans la foulée du limogeage du précédent, le nouveau chef de gouvernement aura pour cheval de bataille la lutte contre la corruption. Merci pour votre fidélité. Les programmes de Radio de la Paix continuent.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.